Volet numéro 2. On va commencer à traiter le second sujet qui est comment supporter les insupportables. Connaissez-vous aujourd'hui ou avez-vous déjà rencontré des gens qui sont capables de vous pourrir la vie, et plus des gens qui sont capables de pourrir la vie presque de n'importe qui? Il y a des personnes qui sont vraiment douées pour rendre nos existences beaucoup plus difficiles, pour rendre nos existences beaucoup plus désagréables. On en fréquente tous les jours au travail, on en fréquente à l'école, on en fréquente dans les transports en commun, mais malheureusement parfois dans nos familles et aussi à l'église, n'est-ce pas? Si vous tapez sur Google aujourd'hui les termes « gens agaçants », Google va vous donner une liste qui fera plus d'1 100 000 sites qui traitent de ce sujet. Alors certains de ces sites vous apprennent des comment agacer les autres, comment devenir insupportable vous-même. J'en ai repris un qui m'avait l'air pas mal, je vais quand même vous citer ces petits conseils, c'est intéressant. L'auteur l'intitule « L'art de faire grimper les autres au mur ». Comment pouvez-vous les agacer les autres? Voici ce qu'il dit. Premièrement, agrafez les pages au milieu et non pas en haut, sur le côté. Deuxièmement, spécifiez plusieurs fois que votre commande est à emporter quand vous passez par le drive au McDonald's. Troisièmement, changez la chaîne télévisée à chaque fois, 5 minutes avant la fin de tous les films ou épisodes. Pour certains, c'est naturel, ça se passe automatiquement. Quatrièmement, la laverie publique. Utilisez un séchoir différent par chaussette. Cinquièmement, au restaurant, quand on vous appelle pour vous asseoir, je ne sais pas si c'est pareil partout, aux États-Unis, vous comprendrez la logique de ça. Quand on appelle votre numéro, restez au comptoir et mangez tous les bonbons qui vous sont offerts gratuitement. Alors c'était intéressant, un autre site va décrire 101 types de personnes insupportables. Et quand l'auteur arrive à la fin de son article, il écrit ceci, faire une liste de 101 types de personnalité agaçante est attirant pour l'Internet, mais en nous limitant à ce nombre, des tas de personnes s'en tirent à trop bon compte. Je décrirai donc quelques insupportables de plus avant de m'arrêter. Et au final, après tous les ajouts qu'il fait, il a plus de 120 types de personnes qu'il décrit qui pour lui sont des personnes agaçantes. Aujourd'hui, pensez-vous que cet auteur exagère en ayant 120 types de personnes qui sont agaçantes? Je suis prêt à parier que si je vous faisais lire la liste et que je vous demandais est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose à cette liste, vous seriez probablement capable d'ajouter plusieurs choses. Vous connaissez probablement autour de vous toute une volée de personnes qui sont des insupportables. Il peut s'agir d'une langue de vipère au travail, il peut s'agir d'un lèche-botte à l'école, d'un contradicteur, d'une personne qui est tout le temps en train de critiquer, d'un autoritaire ou quelqu'un qui aime blaguer constamment de la mauvaise manière. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui est comme Speedy Gonzalez, il veut tout faire trop rapidement et il ne va jamais jusqu'au bout de ce qui commence. Mes filles diraient probablement que chez moi, l'insupportable, c'est moi. J'ai une fâcheuse tendance à être un perfectionniste. Et quand je les appelle pour venir faire le jardin, c'est comme des souris, elles fouillent, elles partent dans tous les sens, mais surtout pas pour rester avec papa. Elles pensent automatiquement, quand je les appelle pour le jardin, à toutes les minuscules mauvaises herbes que je vais leur faire enlever dans la pelouse pour qu'elles soient parfaites. Je rends parfois ma famille dingue. Alors quand on peut éviter les gens qui sont insupportables, ça va, c'est facile. Mais comment parvient-on à garder son sang-froid quand on n'a pas ce luxe? Quand on est forcé de cohabiter en permanence avec quelqu'un qui a une personnalité comme ça, qui vous va dans le mauvais sens, comment fait-on pour ne pas perdre son calme? Comment fait-on pour ne faire en sorte que son influence nocive ne nous gagne pas, ne nous affecte pas peu à peu? Dieu a des choses à dire sur tout ça dans la Bible. En créant l'Église, il a anticipé que tout n'allait pas être tout rose, qu'on allait avoir des moments difficiles avec certains frères et certaines sœurs. Voilà pourquoi en Colossiens, si vous avez une Bible, on va en Colossiens chapitre 3. Au verset 13, cette fois-ci j'ai jusqu'à quelle heure? Qui peut me rappeler l'heure de fin là? 11h30?
Ouais.
Bon. Très, très, très bien. Il fait marquer ceci, « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alors, ce n'est pas le seul passage où on lit qu'on doit pouvoir se supporter les uns les autres. C'est comme si Dieu savait que ça allait se passer à maintes reprises dans l'Église. On va trouver plus ou moins le même commandement en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et d'ailleurs, il commence tout de suite avec un avertissement sur la manière dont on doit se conduire. Au verset 13, il va dire au verset 13, « Soyez en paix entre vous ». Et puis, il continue au verset 14 et il va le dire ainsi. Il va dire « Supportez ». Les faibles, usés de patience envers tous. Donc nous voyons ici que l'Église ne fait pas exception en matière de gens insupportables. Dans toutes les assemblées, il y a des gens qui sont abrasifs, il y a des gens qui viennent pour perturber notre paix avec des remarques qui sont des remarques mauvaises, avec des personnalités parfois qui sont un peu bizarres. Aujourd'hui, si je devais vous demander d'identifier le nom d'une ou deux personnes à Genève, à Strasbourg, nous autres aussi, on peut y penser, on le sait. Si je devais vous demander d'identifier une ou deux personnes, quel nom vous viendrait à l'esprit dans votre assemblée qui sont des chrétiens insupportables? Je vois déjà les doigts qui sont en train de montrer à droite à gauche. Hein? Voilà, pourquoi sont-ils aussi des gens qui sont insupportables? Qu'est-ce qu'ils font pour vous taper sur les nerfs? Et puis surtout aujourd'hui, comment est-ce que Dieu vous appelle à vivre en paix avec eux? Est-ce que vivre en paix avec eux, ça consiste à les éviter? Est-ce que ça consiste à les confronter quand ils disent quelque chose qui est encore insupportable? Ou est-ce que c'est choisir de ne plus entendre ce qu'ils sont en train de dire quand ils parlent? Vous savez, comme les adolescents font de temps à autre, quand on reprend un adolescent, on est en train de leur faire la morale et ils vous regardent dans les yeux et après on leur dit « Mais tu as entendu ce que j'ai dit? Répète-moi ». Ils n'ont aucune idée de ce que vous leur avez dit pendant 30 minutes, hein, surtout si on est prédicateur et qu'on reprend ses enfants, ça dure longtemps. Mais ils n'ont aucune idée, ils vous ont regardé, ils n'ont pas vraiment entendu ce que vous vouliez dire. Est-ce que c'est ça pour nous autres qu'il faut faire dans les assemblées? Faire semblant de rien, par une oreille, l'autre oreille, et on n'entend pas du tout ce qui est dit. La Bible nous demande de nous supporter les uns les autres. Dans le dictionnaire, quand on va voir ce que signifie le terme « supporter », voici ce qu'on trouve. Il est écrit, c'est subir, endurer un affront ou une injure, c'est tolérer la présence et le comportement d'une personne, c'est faire preuve de patience envers elle, c'est s'en accommoder. Il y a donc l'idée ici d'endurer patiemment quelque chose qui est pénible, c'est des implications qui sont négatives, et je me suis demandé, mais est-ce que ça tient du français? Le fait de le définir ainsi, qu'est-ce que le grec va dire exactement dans la Bible? J'ai donc été voir, et dans la Bible, nous avons le terme « anekomai » dans la Bible originale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça a la même connotation qu'en français. Ça faisait au départ référence à un langage de l'armée. On employait ce terme quand il s'agissait de tenir sous la pression de l'ennemi. Dans le grec profane, ce mot avait le sens de « retenir ». Persévérer, supporter. Dans la Septante-Dix, il est employé pour décrire quand il fallait se retenir face à une action qui essayait de vous pousser en avant. L'image est celle-ci. Votre gamin fait pour la centième fois la chose que vous lui avez dit qu'il ne faut pas faire. Et la main vous démange quand le gamin est en train de faire ce qu'il ne doit pas faire. Mais vous la retenez, vous supportez et vous n'acceptez pas que la main parte en avant et fasse ce qu'elle doit faire. Supporter demande donc de la maîtrise de soi, entre parenthèses, la maîtrise de soi en Galates, chapitre 5, verset 23, c'est un fruit de l'esprit, ça va impliquer quelque part une conquête de soi. Un dérivé de ce verbe est le mot anoché en grec. Le mot anoché signifie une trêve, une suspension d'armes. Paul emploie ce mot en Romains chapitre 3, verset 25, quand il dit en Romains 3, verset 25 que Dieu a laissé les péchés impunis, les péchés qui étaient commis auparavant, au temps de sa patience. Le terme patience est le temps de son anoché. On pourrait traduire aussi au temps où il a suspendu sa colère. Dans les évangiles, nous trouvons ce terme supporté, anekomai. Il est utilisé trois fois. Devinez par qui il va être utilisé dans les évangiles. Regardez en Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17. Nous allons voir que notre grand héros, notre bon maître, savait quelque chose de supporter. En Matthieu chapitre 17, qu'est-ce qui se passe? Bien, un homme amène son fils qui est possédé. Il est possédé par un démon, il est malade. Et l'homme demande aux disciples de le guérir. Et les disciples n'y parviennent pas. Ils sont donc forcés d'appeler Jésus à l'aide. Et voici ce que Jésus leur dit au verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Nous voyons donc Jésus qui devait supporter dans ce passage. Plusieurs remarques à ce sujet. Qui Jésus trouve-t-il difficile à supporter dans ces versets? C'est ses disciples. Ils viennent faire preuve de faiblesse dans la manière dont ils s'y sont pris. Ils étaient lents à comprendre des choses spirituellement parlant après avoir passé beaucoup de temps avec leur maître. Ils manquaient de foi dans cette histoire. Souvent, d'ailleurs, quand nous allons lire dans les Écritures qu'il nous faut supporter les autres dans l'Église, le Saint-Esprit ajoute plus ou moins la même chose. Il dit supporter qui ? Supporter les faibles. Allez en Romains chapitre 15 et parlons un petit peu de ce concept de supporter les faibles. En Romains chapitre 15, verset 1 tout d'abord. Il dit ceci, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes. Dans l'assemblée à Rome, voyez-vous, il y avait des chrétiens qui étaient juifs et des chrétiens qui étaient grecs. Il y avait les païens. Il y avait ceux qui pensaient d'un côté qu'ils devaient garder certains jours fériés en l'honneur de Dieu, parce que l'Ancien Testament demandait qu'ils gardent ces jours en l'honneur de Dieu. Et il y avait ceux aussi qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas manger n'importe quoi, n'importe quel type de viande. C'était probablement relatif à l'Ancien Testament aussi. Les faibles dans la foi, dans le passage qui vient de traiter en Romains chapitre 14, juste avant, étaient ceux qui n'avaient pas compris l'étendue de toute leur liberté en Jésus-Christ par rapport à la loi de Moïse. Ceux qui ne pouvaient pas en toute bonne conscience se joindre aux autres quand dans l'assemblée on faisait un bon barbecue. Ils regardaient non pas la viande qui était sur le barbecue, mais à la provenance de la viande. Et je suis sûr qu'avec un peu de réflexion, vous pourrez trouver des analogies à ce que je suis en train de dire à ce sujet avec les diverses préférences que nous avons parfois au sein de nos églises. Je suis sûr que vous pouvez vous imaginer tous les problèmes que ça devait créer à l'époque. Les débats échauffés que ça devait donner, générer, les accusations, les généralisations aussi dans l'assemblée. Le problème à Rome, c'est que les forts étaient exaspérés par la conscience des faibles. Et ils étaient probablement un peu calleux avec leurs problèmes de conscience, puisqu'ils ne trouvaient pas que ce que les faibles rejetaient était un péché. Et ils avaient raison dans ce qu'ils pensaient, puisque l'Ancien Testament n'était plus en vigueur. Comprenez bien que nous n'avons pas dans ce texte un problème de rébellion. C'est malgré tout important de le souligner. Mais nous avons un problème de maturité spirituelle. Nous ne sommes pas appelés dans l'Église à tolérer le péché. On en parlera un petit peu plus tard. Mais nous sommes appelés à faire preuve de patience envers ceux qui ne pensent pas toujours comme nous dans la foi. Ceux qui n'ont pas toujours la même maturité que nous. Ceux qui ont parfois une compréhension qui est un petit peu différente que la nôtre. Pourrais-je vous citer des exemples aujourd'hui? C'est important de parler d'exemples parce qu'on peut se demander, mais Daniel, de quoi es-tu en train de parler exactement? Est-ce que tu parles des pianos quand on chante des chants ou est-ce que tu parles de choses plus précises? Non, je pense qu'utiliser un piano, c'est un péché, hein. Mais je pense qu'il y a d'autres exemples qui peuvent aller, qui peuvent donner. Par exemple, j'ai rencontré dans nos églises des gens qui sont à 100% contre la télévision. Peu importe l'émission qui passe à la télévision, ils pensent que c'est mal d'avoir une télé chez vous. Je connaissais même une dame, elle me disait quand des membres de l'église viennent chez moi, ils sont tellement contre, la première chose qu'ils font, ils viennent mettre leurs mains sur le derrière de l'écran, et ils regardent si l'écran était chaud pour voir si j'avais péché ou si je n'avais pas péché. Hein, donc voilà, c'était comme ça qu'ils pensaient. Nous avons aussi des membres dans nos assemblées qui sont parfois contre des livres du style Harry Potter. Il y en a qui, parce que dans le livre d'Harry Potter, on parle de magiciens. Il y en a qui sont dans l'église contre le fait d'avoir un portable. Et ils sont très vocaux à ce sujet-là, tellement qu'ils finissent parfois par nous taper sur les nerfs, n'est-ce pas ? La particularité de ces membres, quand ils ont quelque chose qu'ils rejettent, c'est qu'ils parlent avec passion contre ces choses qu'ils rejettent et qu'ils pensent que vous aussi, vous devriez rejeter. Et non seulement ils parlent avec passion de ces choses-là, mais ils ont tout le temps tendance à revenir sur le même sujet, encore et encore. Et c'est fatigant au bout d'un moment d'entendre tout ça. Comme Jésus, on a envie de dire, mais jusqu'à quand vous supporterai-je ? Ce qui est difficile aussi, c'est quand la nature de certaines personnes sont différentes de la nôtre, à l'opposé parfois. Par exemple, à Strasbourg, nous avons un couple qui est très proche de la nature. Ils vivent dans la montagne, ils mangent toujours bio, ils refusent tout ce qu'il peut y avoir avec l'électronique, et c'est tout l'opposé de moi. J'aime bien ma viande, j'aime pas ce qui est bio uniquement, et j'aime bien l'électronique aussi. Et donc c'est différent, il faut s'entendre quand on parle. La nature des gens s'exprime parfois avec des habitudes qui nous agacent. Il y en a dans l'église qui sont un petit peu plus radins que les autres. Il y en a qui viendront pour ramasser tous les restes après un repas et qui ne veulent surtout qu'on ne gaspille rien du tout, jusqu'au point de reprendre parfois des petites miettes. Pas simplement les restes, encore un bon morceau de poulet qui reste. Certains aiment se lever à 4 heures du matin et se coucher avec les poules. Et si vous vous levez plus tard qu'eux, ils viennent vous traiter de paresseux dans l'église. Mais si vous allez dormir bien plus tard et que vous travaillez le même nombre d'heures qu'eux, malgré tout, ça ne fait pas de différence. À l'église, il y a ceux qui se mouchent constamment, il y a ceux qui éternuent bruyamment durant les cultes, il y a ceux qui ne se lavent pas les mains après avoir été aux toilettes et qui viennent vous serrer la main, il y a ceux qui mangent comme des cochons. À l'église de Strasbourg, on a eu quelqu'un qui ne voulait plus venir à nos repas en commun et il m'a dit « je ne viens plus » et je me dis que je ne viens plus non plus à l'église parce que j'étais en face d'un frère et ce frère mange vraiment comme un cochon. Et il était dégoûté et du coup, il voulait plus venir à l'église. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas que vous posiez un verre sur la table de peur que vous y fassiez une petite trace. Il y a ceux qui sont toujours trop curieux. Il y a ceux qui viennent vous poser des questions qu'ils ne devraient jamais vous poser. Et puis, il y a ceux qui répondent jamais vraiment quand vous leur posez des questions. Ils évitent toujours d'être transparents. Ce que je comprends en lisant la Bible, c'est qu'une personne qui me rend fou ne pêche pas nécessairement dans la manière dont elle donne libre cours à sa nature. Mais moi, je peux être répréhensible dans la manière dont je réagis à sa nature. Supportons, va dire les évangiles. C'est la première des choses qu'il nous appelle à faire en Romains chapitre 15, verset 1. Faire preuve d'indulgence, être lent à la colère. Comprenez aujourd'hui que ce qu'il nous demande, c'est plus que d'être simplement cordiaux envers les autres. C'est plus que d'exister en gardant chacun nos distances avec une attitude détachée l'un de l'autre. On nous demande de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes, d'être gracieux envers tous. Il faut nous rappeler que souvent, quand les gens agissent d'une certaine manière, il y a des raisons cachées pour lesquelles ils pensent et agissent comme ils le font. Et souvent, il n'y a que le temps qui nous permet de découvrir ces raisons cachées. Peut-être quelqu'un grandit dans une maison en n'ayant vraiment pas beaucoup et c'était difficile pour eux de manger. Mes grands-parents ont fait la guerre. En ayant fait la guerre, ils avaient tendance à ne rien acheter du tout. Et même si je mettais une croûte à la poubelle, pour eux, ils en faisaient tout un monde. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait la guerre. Il y a des choses cachées et parfois le seul moyen de le découvrir, c'est de creuser. Seul le temps nous permet d'y parvenir, d'exposer ces zones qui sont sensibles, de gagner parfois la confiance d'une personne pour que nous puissions leur parler. Paul dit en Romains chapitre 15 verset 1, pas seulement « supportez-vous » ou « supportez les faibles », il ajoute aussi « ne vous complaisez pas à vous-même ». Ça veut dire « ne cherchez pas uniquement ce qui est plaisant pour vous ». En d'autres termes, ça veut dire « sacrifier vos propres préférences ». Il faut agir un petit peu comme Paul parlait en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 12. Qu'est-ce qu'il dit Paul en 1 Corinthiens 9 verset 12 ? Il dit « ceci, dans la dernière partie, mais nous n'avons point usé de ce droit, il parlait de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Nous souffrons tout, dit Paul, après avoir dit en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise ton mon frère, qu'est-ce qu'il fera ? Il dit, je ne mangerai plus jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Ça, c'est chercher le bien de l'autre, n'est-ce pas ? C'était pousser la chose vraiment très loin. À ce jour, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour préserver l'unité du corps du Christ ? l'unité de la foi. Est-ce que vous seriez prêt à aller aussi loin que Paul allait? Disant, si quelque chose crée problème, je suis prêt à m'en passer. Je ne mangerai jamais de viande dans ce cas-là. Il y a des choses qui ne valent pas la peine de mentionner et de nous disputer. Il y a des choses qui ne servent à rien dans l'Église. Je dis souvent à mes filles d'être prudentes avec les choses dont elles parlent. Quand, par exemple, il faut parler des livres qu'elles lisent. Chez moi, je ne suis pas contre Harry Potter. Je vous le dis, je relativise. Je pense que c'est dans le domaine de l'imaginaire. Je suis contre la sorcellerie, mais la vraie. Et je fais une différence entre les deux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont contre tout ça. Donc, du coup, je les ai mises en garde. Attention, surtout quand on va aux États-Unis, ne mentionnez pas que vous lisez un livre comme Harry Potter. Parce que les individus dans l'Église ne comprendront pas ces choses-là. Pour certains, ils penseront que c'est néfaste. Alors rien ne sert de créer, c'est l'idée que rien ne sert de créer des problèmes dans l'Église à ce sujet-là. Mais quelqu'un me répond, mais Daniel, est-ce que ça ne veut pas dire être un hypocrite quelque part? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est être différent que Paul qui aurait choisi dans une assemblée de manger de ma viande et quand il serait venu à Corinthe ou à Rome aurait dit, dans ce cas-ci, je choisis de ne pas manger de viande pour ne pas heurter mon frère. Il y a des circonstances où ça peut passer, d'autres ça ne peut pas passer. Ce que certains définissent comme l'hypocrisie, nous devons parfois définir comme étant de l'amour. Et si certains veulent décrier, condamner des choses comme Harry Potter ou une télévision, j'évite de débattre, à moins que je ne sois sûr que le débat ne sera fait dans l'amour, à moins que je ne sois sûr que la personne soit assez forte pour entendre mon raisonnement sur la question. La seconde chose que ça nous apprend à faire dans la Bible, ce qu'on nous demande de faire, c'est au verset 2, juste après avoir parlé en Romains chapitre 15, verset 1, de supporter les frères. Je suis à court de temps, je termine avec cette chose-là, parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Romains 15, verset 2, il dit non seulement ne cherchez pas votre propre bien, ne vous complaisez pas en vous-même, il va dire ceci, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ce qu'il nous faut chercher à faire, selon Paul, c'est chercher l'édification de nos frères et sœurs. Faire progresser les autres dans la foi, dit la Bible en français courant. Le terme édifié que nous trouvons ici est un terme qui est emprunté au domaine de la construction, de la maçonnerie. Quand on explose au visage d'un autre chrétien qui nous agace, ce que nous ne voulions pas, quand on fait ça, on participe tout au contraire de la construction, n'est-ce pas? Nous participons à la démolition. Nous ne participons pas à l'édifier, à le construire davantage. Édifier signifie chercher à ce que l'autre devienne plus fort. Ça signifie éviter d'être une pierre d'achoppement pour lui, plutôt de manifester de l'amour, d'émuler pour lui l'attitude de Jésus-Christ. J'aime ce qu'un auteur écrit sur la question, je vais citer, écoutez bien, c'est très bien. Attention, celui qui sème le vent récolte la tempête. Et lorsque la tempête a passé et que l'on constate les désastres, arbre abattu, toit arraché, foyer démoli, on peut bien dire Das habe ich nicht gewollt. Je ne suis pas allemand et je ne parle pas l'allemand, mais ça veut dire ceci, voilà, j'aurais voulu savoir auparavant. Je pensais seulement qu'un petit vent secourait un peu les cocotiers et ferait tomber les vieilles branches. Mais vous avez oublié l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire le diable qui souffle avec vous, est 10 fois plus fort que vous, et qui de votre semence de vent fera un vent d'ouragan. Il est facile de critiquer et de démolir, n'est-ce pas? C'est un instinct qui est naturel. Quand on sort avec des petits garçons dans la forêt, quelle est la première des choses que les petits garçons font? Ils vont arracher des branches. Ils donnent des coups de pied dans les champignons. Hein, ils arrachent tout ce qu'ils peuvent quand ils passent par là. Et partout, les hommes et les femmes vivent, c'est pareil. On se critique, on détruit, même à l'église. Et la question qu'il faut se poser quand j'ouvre ma bouche est toujours celle-ci dans une assemblée. Dans quel but est-ce que j'ouvre ma bouche? Est-ce que je l'ouvre pour édifier? Est-ce que je l'ouvre pour construire? Ou est-ce que je l'ouvre pour détruire? Est-ce que de ma critique que je vais donner, le frère ou la sœur va se sortir grandi de cette expérience, mieux affermi, plus capable de faire face aux problèmes qui se posent à lui? Si vous semez la zizanie dans l'Église, attention à l'avertissement de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, où il est marqué quoi? 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Frères et sœurs, ne jouons pas avec le feu aujourd'hui. Le feu part toujours beaucoup trop vite et finit par ravager les maisons, parfois même le toit de notre propre famille. Le feu fait des sans-abri dans la vie. Qui oserait prendre une telle responsabilité vis-à-vis de la maison de Dieu ? Je lisais cette semaine un article sur un joueur de foot, une star dans son équipe, qui aimait agacer les autres. Il arrivait toujours en retard sur le terrain, l'entraînement ne pouvait pas commencer sans lui. Il jouait sa musique à fond dans les vestiaires, il tapait sur le système de tous les autres et il venait de prendre de nouvelles résolutions. Il était prêt à changer ses habitudes, à abandonner d'écouter sa musique, il était prêt à maintenant arriver à l'heure, savez-vous pourquoi ? Pour l'unité de son équipe. Que pensez-vous que son attitude a produit ? Ça a produit une équipe qui s'est encore mieux portée et qui a encore été plus de victoire en victoire. Et c'est ainsi que nous devrions vouloir agir, n'est-ce pas ? Supporter et édifier, tout cela en regardant à Jésus. On n'a plus le temps de terminer sur cette pensée, mais c'est la solution pour tout ça. Jusqu'à quand vous supporterai-je, dit Jésus ? Jusqu'à quand a-t-il supporté ? Jusqu'où est-il allé ? Il est allé jusqu'à la croix, n'est-ce pas ? Il a supporté jusqu'au bout. Et en Romains chapitre 15, verset 3, on nous appelle à prendre Jésus comme modèle pour supporter, avoir la patience de Jésus, être comme Pierre qui, dans la tempête, pour pouvoir tenir, regardait à qui ? À Jésus-Christ, à son attitude jusqu'au bout, à son amour. Quand nous avons peine pour tenir contre un frère qui est insupportable, c'est le moment de nous prendre un peu de recul, c'est le moment de prier. C'est le moment de passer du temps dans nos Bibles pour demander à Dieu son aide afin de pouvoir avoir de la patience. Alors je dis aujourd'hui, vivons dans l'entente. Voulez-vous améliorer votre capacité à supporter tout le monde dans l'assemblée ? Si oui, voici quelques exercices que vous pouvez faire régulièrement. Numéro 1, faites une liste de toutes les personnes à l'église qui vous tapent sur les nerfs. Cherchez le dénominateur commun dans cette liste. Quel est le genre d'attitude qui vous dérange en général ? Vous énerve-t-elle parce qu'elle pêche réellement ou simplement parce que leur personnalité est différente que la vôtre ? Avec cette liste, numéro 2, priez pour ces personnes au moins pendant 2 semaines, tous les jours. Et je vous promets que si vous priez pendant 2 semaines, tous les jours, vous allez voir une différence. Peut-être pas en eux, mais en tout cas en vous, dans l'attitude que vous aurez vis-à-vis de ces personnes. C'est l'idée de Jésus, priez pour vos ennemis. Numéro 3, demandez à Dieu de vous changer, de vous donner vous à vous-même une autre perspective sur ces gens. N'oubliez jamais que Dieu ne changera pas nécessairement. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez toujours vous changer vous-même. Hein ? Et c'est d'abord sur vous-même qu'il faut demander à Dieu de travailler. Numéro 4, si vous avez une dent contre quelqu'un, ça rendra la chose encore plus difficile de pouvoir supporter cette personne. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de supporter dans la Bible, il fait marquer juste après « Pardonnez-vous les uns les autres ». Aujourd'hui, y a-t-il des personnes que vous devez pardonner dans l'Église ? Si oui, pardonnez. Abandonnez la rancœur. Essayez de restaurer les relations qui sont brisées. Vous faut-il passer un appel téléphonique en rentrant ? Vous faut-il inviter quelqu'un pour aller manger ou boire un verre au restaurant, un café, pour pouvoir parler, rétablir une relation. Numéro 5, cherchez une manière de servir quelqu'un qui vous agace. Parce qu'en servant celui qui nous agace, on finit souvent par ressentir des sentiments qui sont plus positifs envers la personne. Si vous attendez l'inverse, que la personne vienne vers vous, il y a beaucoup de chances que ça ne changera jamais. Numéro 6, dites quelque chose de bien sur la personne qui vous agace à un autre frère ou une autre sœur dans l'assemblée. Pas avec un « mais » à la fin. Simplement quelque chose de bien. Envoyez un compliment. Envoyez une petite carte pour encourager ce frère ou cette sœur. C'est encore un autre bon exercice et vous verrez que ça vous aidera. Un des secrets pour former une église unie, c'est de comprendre que les gens insupportables, en un sens, sont un cadeau de Dieu. Comment vous me dites aujourd'hui ? Comment se peut-il que les gens insupportables soient un cadeau de Dieu ? Parce que les gens insupportables vous permettent d'apprendre des choses sur vous-même. Parce que les gens insupportables vous permettent vous-même de grandir dans la foi. Ils vous permettent d'apprendre ce que ça signifie réellement d'aimer et d'être aimé par les autres. Je vous invite donc aujourd'hui à prendre l'engagement d'être uni avec les autres, d'être patient et de supporter ceux qui sont faibles dans la foi.